en pensant au Seigneur qui, comme ce chant le dit, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, a dû méditer, il a regardé et il pensait à ce qu'il allait faire, donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Et c'est de là qu'est venu notre salut, parce qu'il n'a pas pris la place du roi qui vient régner immédiatement, mais il a pris la place du roi qui donne sa vie pour ses sujets. Alors nous le bénissons, nous lui rendons grâce. Je vais prier encore. Seigneur, je veux te bénir, te rendre gloire. Tu es le Dieu de notre vie, le Dieu de notre salut. Combien, Seigneur, nous sommes reconnaissants de tous les événements qui se sont accomplis. Seigneur, dans cette ville de Jérusalem, il y a maintenant 2000 ans. Ô, gloire à ton saint nom, Seigneur. Et que nos cœurs vraiment puissent comprendre et recevoir tout le bénéfice de cette œuvre immense que tu as faite en venant dans la ville et en donnant ta vie pour nous. Amen. Alors les enfants en particulier, je pense que vous savez qu'il y a une ville en Israël qui s'appelle Jérusalem. Donc, si vous ne savez pas encore, ben, vous demandez à vos parents de vous montrer sur la carte cette ville, qui est une ville particulière parce que c'est là que se sont accomplis les événements de notre salut. C'est là que Jésus est entré, il y a 2000 ans, à Jérusalem, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cette ville est entourée de murailles. Et c'est de tout cela dont il va être question dans ce message, en parlant de Jérusalem comme d'une ville joyeuse, une ville dramatique, mais aussi une ville joyeuse. Son nom, d'ailleurs, c'est la ville de la paix, mais malheureusement, elle n'a quasiment connu que la guerre. Mais sa destinée est d'être la ville de la paix. Alors il y a ce beau psaume 122 dont on a entendu dans une prière un des aspects, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que le montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alors, je ne vais pas m'attarder longuement à commenter juste ce psaume, mais déjà dire que c'est un des cantiques des degrés, ce sont les cantiques que les pèlerins qui arrivaient à Jérusalem chantaient, donc du psaume 121, jusqu'au psaume 134. C'est une série de cantiques qui participaient à la montée des Juifs à Jérusalem. Et ce psaume le dit particulièrement, la montée des pèlerins jusqu'à la maison de Dieu à Jérusalem, pour aller y rencontrer et célébrer leur Seigneur. Alors une caractéristique ici, qui est donné de cette ville, c'est cela que je voulais relever. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. L'unité des quartiers de Jérusalem qui correspond à l'unité des tribus qui viennent à la maison de l'Éternel. C'est là que montent les tribus de l'Éternel qui s'assemblent à Jérusalem. Des frères et des amis réunis sous le regard de Dieu, qui viennent chercher la justice et la paix, c'est là que sont les trônes pour la justice. Le nom du Seigneur réunit ses enfants. Un frère en Christ que je connais, donc que nous connaissons, Michel Hubot, pour ne pas le nommer, donc juif d'origine, et il est allé voir, donc à un moment donné, il est allé jusqu'à Jérusalem, comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs aiment aller à Jérusalem. Et bien sûr, Jérusalem, c'est une ville maintenant avec un grand rayonnement, enfin qui a une périphérie moderne. Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'en rentrant dans les murs, puisque la muraille de Jérusalem existe toujours, l'ancienne ville existe toujours, en pénétrant dans cette ville, il y a vraiment quelque chose de particulier qu'il a ressenti et que je pense tout pèlerin encore maintenant doit ressentir lorsqu'on entre dans cette ville qui est la ville qui n'a plus mais qui a eu le temple du Seigneur et dans laquelle donc se sont déroulés tous les événements qui concernent notre salut lorsque le roi s'est présenté. Alors, le nom du Seigneur réunit ses enfants. Mais le nom du Seigneur réunit ses enfants, non pas seulement à Jérusalem, c'est la ville qui historiquement donne le sens de ce que Dieu fait en venant se manifester au devant des hommes dans son temple. Mais c'est tout simplement le nom du Seigneur qui réunit ses enfants. C'est lui. Qui nous a attirés de nombreuses nations de la terre, de nombreuses directions, de nombreuses origines. Et qui nous permet de venir à sa maison, de former sa maison pour le glorifier ensemble d'une seule bouche lorsque nous l'avons lu dans l'introduction, chapitre 15 de l'Épître aux Romains, afin que vous glorifiez ensemble d'une seule bouche le nom de Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ainsi donc... On peut dire que nous avons fait notre propre montée à Jérusalem lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ et nous sommes assemblés, nous sommes unis. Ensemble, nous pouvons chanter ensemble, nous pouvons donner ensemble, nous pouvons témoigner de la grâce et de l'amour que le Seigneur a eu pour nous. Jérusalem signifiait, on peut dire, ce lieu d'unité, de rassemblement autour de Christ, de Dieu manifesté en chair, dont le temple, bien sûr, était le symbole. Alors, avec le psaume 125, nous pouvons aussi considérer maintenant la situation de ceux qui s'assemblent à Jérusalem, qui cherchent la justice de Dieu en Jésus-Christ pour nous, les chrétiens. Et je vais vous lire... Donc le psaume 125, un autre cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Pas de faux semblants, ce sont ceux qui se confient en l'Éternel, qui sont environnés de sa grâce, qui ont l'assurance que dès maintenant et à jamais, l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Il y a non seulement des murailles qui signifient le lieu vraiment où se trouve la sainteté de Dieu, mais il y a aussi ces montagnes qui entourent Jérusalem et qui montrent que l'Éternel est là, qui entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Et c'est lui qui va régner sur ce peuple, il ne va pas laisser l'ennemi prendre possession du lieu de vie de ses saints. Dès maintenant et à jamais, l'Éternel entoure son peuple. Nous sommes entourés par la fidélité de Dieu. Dès lors que nous venons à Jésus-Christ, nous avons notre Seigneur pour protection. Alors, bien sûr, à cause de l'infidélité de ses rois, Jérusalem a perdu sa paix et ses murailles ont été détruites. Nous l'avons lu dans le livre de Néhémie où il est question de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Il était inévitable que les rois humains d'Israël soient finalement infidèles parce que seul le Christ est fidèle, seul le Christ est saint, seul le Christ est dans l'obéissance parfaite du Père. Et donc, voilà, Jérusalem avait beau être le lieu du rassemblement des tribus d'Israël, il avait beau avoir le temple au cœur de sa vie spirituelle, l'infidélité a fait que Jérusalem a été envahie, le temple a été détruit, les murailles ont été détruites. Et c'était comme si tout espoir et toute confiance en Dieu ne valait plus rien. Mais que disent à ce moment-là les prophètes? C'est là qu'interviennent les prophètes. Ils sont intervenus pour avertir et éviter la ruine de Jérusalem. Mais une fois cette ruine intervenue, ils avaient aussi un message extraordinaire à apporter, à commencer. Alors, je commence par celui-là, mais ce n'est pas dans l'ordre qu'il a été donné par les prophètes, puisque je cite d'abord Zacharie. Zacharie au chapitre 9, qui correspond à ce que nous avons chanté. Et donc, les versets 9 et 10. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Le roi est annoncé qui va arriver à Jérusalem pour établir le règne de vérité et de paix. Et dans le prophète Ésaïe, alors le prophète Ésaïe, pratiquement presque toutes les paroles du prophète Ésaïe, elles sont nombreuses. Il y a 66 chapitres au prophète Ésaïe, sont l'annonce du message de l'évangile, de la venue du Sauveur et de la délivrance, donc par la venue du Sauveur, de la délivrance de Jérusalem. Alors je vous lis chapitre 49, versets 14 à 23. Sion disait : L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes regards alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'en ceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertées, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? J'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules, des rois seront tes nourriciers, leurs princesses tes nourrices, ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Ceux qui espèrent en moi, dit le Seigneur. Le mouvement s'est à nouveau inversé. Ceux qui t'avaient détruite sortiront, s'éloigneront, et toi tu verras arriver de partout des fils et des filles. Le Seigneur rassemble aujourd'hui, de partout, par l'Église, des fils et des filles, tous ceux qui deviennent ses enfants par la foi en Jésus-Christ. Ils s'assemblent pour habiter auprès de Dieu, dans la maison et dans la ville du Seigneur. Ces choses sont esprit et vérité. Parce que bien sûr, le même qui est entré à Jérusalem, parce que la prophétie de Zacharie s'est accomplie, bien sûr, vous le savez, on l'a chanté. Ces choses, donc, celui qui est entré à Jérusalem pour annoncer le règne de Dieu, a dit aussi à la Samaritaine dans son entretien avec elle, Jean chapitre 4, versets 21 à 24, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le Messie, le roi, celui qui doit régner à Jérusalem, a commencé par dire, le vrai royaume, la vraie vie d'adoration, elle est spirituelle, en esprit. Et en vérité, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais Jérusalem sert de point de fixation, point de repère de ce qu'est l'adoration sous le regard du Seigneur qui, en venant à Jérusalem, n'a pas voulu régner sur le monde à la façon des hommes, mais a donné sa vie pour nous. Et à partir de là, eh bien, le Seigneur a envoyé ses apôtres prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier pour rassembler tous ses enfants, tous ses fils et ses filles qui n'existaient pas, mais que le Seigneur a engendrés par la foi en Jésus-Christ. Et les églises locales qui en ont découlé, on peut dire, sont des petites Jérusalem. Elles ont toutes leurs histoires singulières qui peuvent comprendre bien des faiblesses et des abandons. Mais par un renouvellement de la prédication de l'Évangile, le salut du plus grand nombre est toujours d'actualité. Toute assemblée de croyants se constitue des fils et des filles amenés par la repentance à la Jérusalem du Seigneur, la véritable Jérusalem. Alors, les choses sont un petit peu compliquées parce que la Jérusalem terrestre a reçu des promesses. Elle a été détruite, elle a été en partie restaurée, mais spirituellement, elle ne l'est pas encore. Le temple n'est pas reconstruit, les Juifs ne sont pas encore convertis en tant que nation. Mais il y a quand même des promesses pour cette Jérusalem-là. Mais même cela, c'est encore qu'une étape. Ce n'est encore que symbolique de ce que Dieu fait en notre faveur. Parce que tous ces enfants qu'il engendre en Jésus-Christ, eh bien, il les prépare pour la Jérusalem céleste, la ville de Dieu, la véritable Jérusalem. Elle se trouve, notre cité à nous, dit l'apôtre, est dans les cieux. Et tous ceux qui marchaient par la foi, Abraham, marchaient en vue d'une cité qui n'est pas une cité terrestre. Dès le départ, ça a été indiqué par Abraham, qui n'a pas construit de ville, mais qui habitait sous des tentes et qui, avec Isaac et Jacob, étaient des pèlerins qui voyaient à l'avance la cité de Dieu vers laquelle ils marchaient. Et c'est là que le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur, par la croix de Christ, a donné des enfants à la Jérusalem céleste. Sans la croix, aucun enfant n'aurait pu naître, on peut dire être donné à la Jérusalem céleste. Et quelle que soit la destinée des églises locales, Dieu poursuit son rassemblement de ses enfants, rachetés par le sang de Christ, vers la ville qu'il a préparée pour nous. Et qui de ce fait, parce qu'elle est déjà prête dans le cœur de Dieu, est la ville aussi qui nous engendre. L'apôtre Paul fait une comparaison entre justement la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Et je vous lis donc son propos dans Galates au chapitre 4, versets 26 à 27, parce que la Jérusalem terrestre, elle a exercé un culte, mais qui n'était pas encore le culte libérateur. Et donc l'apôtre nous enseigne de cette façon, chapitre 4 de l'Épître aux Galates, à partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, le culte célébré par Israël, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate des pousses des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Donc soyons pleinement dans la joie lorsque nous participons à ce mouvement vers Jérusalem. Autrement dit, lorsque nous voyons et travaillons à voir les pécheurs venir à Christ. Parce que là, nous savons qu'ils ont un lien maintenant avec la Jérusalem céleste, qu'ils sont réunis en Christ auprès de Dieu. Je voulais encore vous lire dans Zacharie au chapitre 2, versets 1 à 5. Je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu ? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui me parlait s'avança et un autre ange vint à sa rencontre et il dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Et puis, dans toujours le prophète Ésaïe, chapitre 26, versets 1 à 4. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Et après, il est question qu'il a renversé la ville superbe, parce qu'il y a d'autres belles et grandes villes que Jérusalem, mais qui ne sont fondées que sur l'orgueil de l'homme. Et ces villes-là, elles doivent être abattues, anéanties, pour que subsiste la ville du Seigneur. Mais laissez entrer la nation juste et fidèle. Quelle fermeté à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. Quelle fermeté nous devons avoir dans notre foi en Jésus-Christ. Car par lui, nous avons le salut pour muraille, et pour rempart. Tu nous donnes le salut pour muraille et pour rempart. Il y a des portes dans la muraille, c'est pour y laisser entrer la nation juste et fidèle. Tous ceux qui sont justifiés par la foi en Jésus-Christ et qui ne cherchent aucun autre salut. Dans le psaume 125, vous avez remarqué le dernier verset, je suppose. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, qu'ils périssent avec ceux qui font le mal. Dans Jérusalem, ne subsistent que ceux qui ont le cœur droit, le cœur pur. Et c'est exactement la vision finale de l'Écriture dans l'Apocalypse, au chapitre 21, où il est question de cette nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu, avec sa muraille, avec ses portes. Et il est écrit, 21, verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Car la nouvelle Jérusalem, c'est aussi l'épouse de Christ, c'est celle qui n'existe que parce que Christ a tout accompli la volonté du Père pour nous sauver. Me voici, dit le Seigneur, moi et les enfants que tu m'as donnés. Alors, ce qui vient d'être dit concerne notre foi en notre glorieux Sauveur Jésus-Christ. L'œuvre de sa grâce nous a attirés à lui afin de nous mettre en sécurité avec les saints. Maintenant, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons aussi à bâtir la muraille, comme vous avez pu le lire dans le livre de Néhémie. Parce que prêcher le salut, c'est aussi réunir les conditions pour qu'il soit effectif dès aujourd'hui. Nous ne prêchons pas seulement un salut à venir, nous prêchons bien sûr notre espérance et d'être avec le Seigneur dans les cieux, participer à cette nouvelle Jérusalem et à cette nouvelle création en Jésus-Christ. Un petit mot quand même pour ce qui est l'objet d'un message en soi, pour dire que notre en plein été avec toute cette sécheresse et le vrai désordre climatique qui s'est installé, redire tout simplement que nous ne sommes pas les seuls en tant que chrétiens de penser que voilà, nous arrivons à la fin des temps, mais les scientifiques, les personnes qui réfléchissent, les philosophes qui pensent, ont compris que l'humanité telle qu'elle s'est comportée sur la Terre a engendré un tel désastre que les dégâts sont quasiment irréparables au temps présent. Et qu'est-ce qu'il y a alors comme espoir, si ce n'est que les nouveaux cieux, la nouvelle terre où la justice habitera, que nous attendons de la part du Seigneur. Et qui participera à ces nouveaux cieux, ces nouvelles terres? Parce qu'en fait, le problème des scientifiques, c'est qu'ils ne trouvent pas assez de personnes pour prendre conscience et puis pour renverser, on peut dire, la tendance. Parce que l'être humain, il est ce qu'il est, parce qu'il vit dans l'indifférence, dans l'orgueil, dans l'immédiateté. Il ne comprend pas ce qui se passe et il continue sa vie, même qu'on l'avertit. Il continue le même processus. Et donc, qui sera apte à vivre une vraie vie nouvelle dans la nouvelle terre que le Seigneur constituera? Mais ceux qui aujourd'hui auront reçu déjà dans leur cœur la vie nouvelle et les nouveaux principes de vie que le Seigneur a inculqués lorsque le Seigneur enseigne les béatitudes au commencement de son ministère, il nous dit ce qu'est la vraie vie selon Dieu, vie de confiance totale et de pleine satisfaction. Qui nous fait échapper à toute cette surconsommation et toutes ces choses qui sont devant nos yeux dans la vie du monde. Donc, prêcher le salut, c'est réunir les conditions pour qu'il soit effectif aujourd'hui. C'est donc participer à la délimitation du camp de Dieu au sein d'un monde hostile, pécheur, rebelle à Dieu. Et donc, il y a une réalité spirituelle à reconstruire régulièrement les murailles pour qu'il y ait séparation entre le monde de Dieu, la ville de Dieu, le royaume de Dieu et ce monde pécheur. Donc, soyons ouvriers avec Dieu aussi dans ce sens, de ne pas seulement attendre que le royaume de Dieu vienne, mais de le faire venir par notre engagement de foi, par notre obéissance, par notre recherche de la parole du Seigneur, de la vérité biblique. Alors, voilà, nous serons protégés véritablement de cette invasion du monde. Et voilà, nous pourrons tirer les leçons du livre de Néhémie. Et j'espère que vous avez pu méditer à partir des différents événements qui se passent lors de la volonté de rebâtir les murailles par Néhémie. Ce n'était pas facile du tout, parce qu'il y avait autour des ennemis à qui cela ne plaisait pas. Le monde ne se plaît pas à nous voir établir les lois et les principes du royaume de Dieu. Et pourtant, c'est absolument indispensable. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect de la prière. Je voulais citer à la réunion de prière Ésaïe, j'ai dit chapitre 64, mais en fait, c'était Ésaïe chapitre 62. Et c'est avec cela que je voudrais terminer. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je passe la suite pour arriver au verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Les promesses sont là, mais nous sommes de ceux qui doivent participer à l'accomplissement de la promesse de Dieu par une vie de prière, par une intercession. C'est cela, en fait, ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Postez-vous sur les murailles et priez, priez que le Seigneur restaure et apporte la délivrance finale. Priez pour l'Église, priez pour les saints, priez que le Seigneur poursuive son œuvre de sanctification au milieu de nous. Priez pour que le Seigneur continue à assembler, à réunir ceux qu'il a sanctifiés par le sang de la croix. En sachant que la visée finale, c'est bien d'être de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie et qui sont accueillis dans la Jérusalem céleste. Que le nom de notre Seigneur soit béni en l'Église et en Jésus-Christ. Amen.